Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
À la City de Londres.
No, your eyes aren't deceiving you. This is...
Vous ne rêvez pas, c'est bien London Bridge. Et là-bas, oui, c'est bien un troupeau de moutons. Il s'agit là d'un privilège ancien de près de 1000 ans, accordé à un nombre restreint de Londoniens.
Les marchands de bestiaux souhaitant entrer dans Londres pour vendre leur cheptel pouvaient le faire sans avoir à s'acquitter de taxes à London Bridge et ailleurs aussi. Et nous réaffirmons ce droit. Et ainsi, nous célébrons les bonnes vieilles traditions de nos anciens.
Il est loin, le temps où les bourses spécialisées, la laine, on entendait parler des moutons, le thé, etc., caractérisaient encore le quotidien de la City qui soutenait une économie domestique. Aujourd'hui, son arrière-pays, c'est le monde entier dont elle accélère et assouplit les types de transactions financières les plus acrobatiques grâce à l'agilité de ses employés dont on sait les multiples talents. Demeure cependant constamment chez elle le souci d'attirer les capitaux en abaissant le plus possible les taxes. On a entendu ce mot de taxe. Depuis la fin des années 1950, pendant un demi-siècle, les réglementations que la City présentait comme des corsets ont progressivement glissé jusqu'au choc de la crise de 2008 qui a montré combien les banques s'étaient surexposées. Une série de scandales a suivi. La City, lieu de l'argent rapide, a soudain été présentée comme capitale de l'argent sale. Et maintenant, c'est un possible Brexit qui l'irrite. La City a créé de nouvelles zones d'affaires dans l'agglomération. Elle a jeté vers le haut des gratte-ciel. Sa responsabilité est grande dans l'augmentation vertigineuse des prix de l'immobilier à Londres. L'infirmière puis le médecin, l'instituteur puis le professeur ont les plus grandes difficultés à se loger dans les quartiers sur lesquels ses employés ont jeté leur dévolu. Mais voici que ceux-ci, déjà moins nombreux depuis la crise, pourrait l'être encore moins si un éventuel Brexit les projetait sur le continent où il faudra relocaliser certaines activités liées au marché financier européen. Pour la City, c'est le temps des trous d'air.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Marie-Claude Esposito, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié avec Philippe Chassaigne un livre chez Vendémiaire. Londres, la ville, monde, et puis vous avez comme spécialité depuis fort longtemps l'industrie, l'économie, la finance, la banque britannique. On nous dit maintenant qu'il faut parler en anglais, bien sûr, mais il faut aussi penser en anglais. Vous, vous pensez en anglais ?
Oui, ça m'arrive, mais il faut surtout parler en anglais, surtout quand on travaille dans la City.
Alors la City, si vous le voulez bien, on va la prendre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. New York devient une place financière à l'époque plus importante et de loin que la City. Parce que, petite piqûre de rappel, Marie-Claude Esposito, le système de Bretton Woods, expérimenté après les libérations, promeut la prééminence du dollar.
Oui. Alors, ce système monétaire international est un système de parité fixe mais ajustable. Ce qui veut dire que, à l'époque, les pays qui ont adhéré au système monétaire international devaient déclarer la parité de leur monnaie en or ou en dollars. Et en 49, le président Truman a décrété la convertibilité du dollar en or. Ça a eu comme effet que très rapidement, tous les pays ont déclaré leur parité en termes de dollars.
Alors la City, elle a continué à calculer en livres sterling. Son domaine d'activité, c'était celui de la livre sterling, qui était extrêmement vaste encore au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous propose que on la saisisse avec des clichés. Oui. C'est une émission de télévision avec Jacques Salbert, qui s'appelle, elle est bien connue, 5 colonnes à la une. Et nous sommes à la fin des années 1950. Ça va vous rappeler aussi les manuels d'anglais que vous avez eus quand vous étiez sur les bancs du lycée.
Maintenant que l'on est devenu un homme, on va chez le chapelier acheter son premier chapeau melon. Vêtu de ce couvre-chef qui vous confère la dignité et qui est presque un uniforme, on peut faire maintenant ses débuts de gentleman dans la vie civile. Et de préférence, on travaille dans la cité. La cité, c'est le quartier des chapeaux melons et le coffre-fort de la Grande-Bretagne à la fois. C'est le quartier des banques, des assurances, c'est le quartier des grosses affaires. au Stock Exchange, on surveille les affaires mondiales, on défend la livre sterling.
Mais la City of London Corporation offre plus intéressant encore. Elle traduit physiquement la façon dont le capitalisme représente ses intérêts.
Tout à fait curieusement, ils ont même un représentant non élu qui siège au sein même du Parlement britannique. Une fonction très ancienne, celle du Remembrancer.
Le Remembrancer est apparu, je crois, vers 1520. Son rôle était de défendre les intérêts de la City directement au Parlement. Le Remembrancer siège aux côtés du président de la Chambre des communes. C'est le seul lobbyiste à pouvoir siéger aux communes. Le Remembrancer veille à ce que le Parlement ne remette pas en cause les droits historiques, les privilèges patrimoniaux de la City. Le nom du Remembrancer actuel est Mr. Double, ce qui ajoute à la beauté des choses.
Alors là, on est dans la City domestique.
Oui. Cette image de la City domestique, c'est une image. Que s'est-il passé après la guerre ? Après la guerre, la livre sterling est encore monnaie de réserve, notamment monnaie de réserve pour ce qu'on appelle la zone sterling. La zone sterling, pour faire simple, regroupant à peu près l'ensemble des pays du Commonwealth. Mais à l'issue de la guerre, le gouvernement britannique, qui est un gouvernement travailliste, va mettre en place un contrôle d'échange. Et ce contrôle d'échange va bien sûr avoir une influence très très importante sur la City de Londres, qui jusque-là, depuis qu'elle existait, avait toujours bénéficié de très très peu de réglementation.
Alors ça, c'est la City domestique qui subit ça.
Alors voilà, je pense que c'est l'image City domestique, City internationale, elle vient du contrôle d'échange. Les deux cities vont être séparées par ce mur invisible du contrôle d'échange.
La City internationale la étant, city... elle, bénéficiaire de règlements moins difficiles.
Voilà, quand elle va voir que il y a des problèmes pour utiliser la livre sterling, les banquiers à l'international, parce qu'il y a énormément de banques internationales, vont se mettre à utiliser le dollar dans la cité internationale.
Il va y avoir peu à peu une surabondance de dollars dans la cité internationale.
Oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, à partir du milieu des années 50, les banques américaines étaient très, très réglementées. Notamment, elles ont été réglementées par une réglementation qui s'appelait la réglementation Q Regulation, qui les empêchait de rémunérer les dépôts comme elles le souhaitaient.
Et donc le dollar va aller se balader
et
ailleurs.
Et du coup, il est arrivé dans la City.
Alors là, on est dans les années 1960. Vous nous parliez du système de Bretton Woods. Il va être abandonné dans les années 1970. Et on va entrer dans une période de change flottant qui va favoriser des spéculations rapides.
Tout à fait. Les économistes, enfin, les grands spécialistes pensaient que peut-être... Le fait qu'on ne soit plus obligé de défendre une parité allait donner plus de liberté aux gouvernants, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu rééquilibrage sur les marchés, les monnaies se sont mises à varier de manière erratique.
Alors les variations, ça permet d'infinies possibilités. On va s'arrêter un instant, reprendre souffle si vous le voulez bien, Marie-Claude Esposito, pour que chacun comprenne bien. Voici un extrait d'un film de Cédric Clapiche qui s'appelle « Ma part de gâteau ». Un jeune financier de la City explique à sa femme de ménage, qui est un peu éberluée quand même par ces nouveaux mécanismes, comment une de ces opérations, elle porte justement sur le taux de change du dollar, peut rapporter rapidement.
Je sais pas comment vous faites pour comprendre tout ce bazar là.
Demandez-moi de repasser une chemise et c'est la panique. Hein. Vous voir le programme de votre machine là, je comprends rien du tout.
Oh, la vôtre elle est simple hein, pourtant. Moi je vais sur Universel, 30 degrés et hop.
Et c'est comme la boire, c'est assez simple en fait. C'est juste une... Excusez-moi. Vous voyez là, je viens d'acheter 5 millions de dollars.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai une enveloppe que me donne mon ancien employeur qui est une banque d'affaires, d'accord? C'est plafonné en euros et avec ça, je fais des opérations. Là, par exemple, je viens d'acheter 5 millions de dollars avec 3 188 572 euros. Parce qu'à l'heure qu'il est, le dollar vaut 0,637 euros. J'attends la fin de la conférence du président américain, parce qu'avec ce qu'il va annoncer, je pense que le dollar va grimper en flèche. Ok, vous me suivez? Vous voyez cette courbe-là? Eh ben, dans 2 heures, elle sera là. Alors, si comme j'espère, le dollar est monté jusque-là, ça voudra dire qu'il aura augmenté, et qu'il sera à 0,650 euros. C'est pas grand-chose, ça veut dire qu'il aura augmenté de 0,013 euros. C'est rien, c'est un centime d'euro d'unité. C'est rien. C'est rien. Ah si, c'est beaucoup. Ça veut dire que dans 2 heures, si tout se passe bien, j'aurai gagné 61 428 euros.
Là, dans 2 heures, si le dollar a pris 1 centime d'euro, vous aurez gagné 61 428 euros. C'est ça?
Exactement. C'est génial, hein?
Dans la nouvelle période de mutation qui va s'ouvrir, on va calculer peu à peu en euros. La présence de l'euro ne va pas gêner l'ascension de la City.
Non, pas du tout. Elle va après aussi utiliser les euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Londres abrite le plus grand marché d'échange. Et ça, c'est une donnée historique. Mais elle continue d'abriter le plus grand marché d'échange. Donc, elle travaille en euros, elle travaille en dollars, elle travaille en livres sterling.
La déréglementation va s'accentuer dans les années 1980, avec l'époque de Madame Thatcher, dont on a dit que c'était pour la City un Big Bang.
Oui. C'est exact, un Big Bang, c'est-à-dire quelque chose qui a remis en cause toutes ces structures. Alors, Margaret Thatcher a déréglementé le marché financier dès qu'elle est arrivée au pouvoir. Elle est arrivée au pouvoir, les élections ont lieu en mai 79, elle a été nommée Premier ministre au tout début du mois de juin. Et la première mesure de déréglementation qu'elle a prise, c'est de supprimer le contrôle d'échange. Donc ça a été une mesure qui tout de suite a eu des effets très très importants. Elle a pris cette mesure parce que la livre était devenue une pétrodevise et que la livre s'appréciait de plus en plus et que ça gênait beaucoup les exportateurs britanniques. Donc elle a pris cette mesure en pensant, enfin, son gouvernement a pris cette mesure en pensant que ça allait permettre de stabiliser la livre sterling. Mais à la suite de ça, elle a pris d'autres mesures, comme la suppression de ce qu'on appelait en Grande-Bretagne le corset, c'est-à-dire un dispositif d'encadrement du crédit, on dirait en France. Donc ça, c'est dans au cours de l'année 80, ça s'est fait par étapes.
Pendant le Big Bang, elle jette les corsets par-dessus les moulins.
Ah oui, mais le Big Bang, c'est un peu plus tard. Là, le Big Bang, c'est la déréglementation du marché boursier. Le marché boursier fonctionnait encore à l'époque comme, on dirait, un old boys club, c'est-à-dire avec une réglementation qui datait des années 1806, 1810. Et c'était un marché avec un certain nombre de particularités. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait des règles de concurrence qui n'étaient pas bien respectées. Donc, il y a eu une procédure de lancer. Et de manière, enfin, on a donné le choix à la Bourse de Londres. Soit elle se réformait, soit la procédure allait aller jusqu'au point. Et finalement, avec beaucoup de difficultés, la Bourse de Londres a accepté de se réformer.
Alors moi, je vois bien que vous pensez en anglais, parce que moi je dis déréglementation, et vous, vous dites les règles de concurrence oui. ne sont pas bien respectées. Alors, on fait une pause, Marie-Claude Esposito, on se retrouve ensuite pour parler de l'époque plus récente de la City, mais un contemporain de Madame Thatcher, et même il l'a précédé, Frank Sinatra, maintenant, qui chante le climat permanent qu'on retrouve en toute saison et en toutes époques à Londres.
A foggy day in London town had me low and it had me down. I view the morning with much alarm. The British Museum, it lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles, it hadn't passed. For suddenly I saw you standing right there, and in foggy London town, the sun was shining, 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 shining everywhere. How long, I wondered, could this thing possibly last?
But the age of miracles, it hadn't passed. For suddenly I saw you right there. And in foggy London town, the sun was shining everywhere.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La City de Londres, c'est un des lieux en jeu du référendum d'aujourd'hui dans le Royaume-Uni. Nous sommes avec Marie-Claude Esposito qui a apprécié ce petit moment avec Frank Sinatra.
Oui, tout à fait.
Mais ça nous ramène quand même à une époque trop antérieure parce que là, c'est une chanson de 1937 et nous, on était parvenus au tout début du 21e siècle. J'aimerais que vous nous racontiez comment la City s'inscrit dans l'agglomération depuis. Alors, la City, elle est dans le monde. Elle est favorisée par son fuseau horaire. C'est aussi une des explications de son succès, non ?
Tout à fait. Je crois qu'il faut revenir sur la déréglementation qui n'a pas eu lieu qu'en Grande-Bretagne, mais qui a lieu... Tous les gouvernements ont déréglementé leur marché financier dans les années 80-90, même la France, sous François Mitterrand. Et donc, on est arrivé à la création d'un marché qu'on appelle un marché financier global. Et la City se trouve à moyenne distance entre Tokyo d'un côté et New York de l'autre. Donc très très bien située. Ça n'avait pas échappé au gouvernement conservateur de Margaret Thatcher.
Mais je voudrais que nous parliez maintenant de l'inscription dans l'agglomération géographique. C'est une cité globale, 8,5 millions, 12 millions d'habitants, mais les employés de la City qui sont à peu près 300 000, où sont-ils, où travaillent-ils, quels effets leur présence a-t-elle?
Ce que je veux dire, c'est que le Big Bang a eu, le Big Bang et les autres mesures de déréglementation, des effets structurels extrêmement importants. Et donc, on est arrivé à une autre City, celle dont vous voulez que je parle maintenant, où les acteurs n'étaient plus spécialisés comme avant, où il y avait énormément de banques étrangères qui sont arrivées, notamment les investment banks américaines, les grandes banques d'investissement, qui se sont mis à concurrencer les banques britanniques. Les banques britanniques, les grandes banques de dépôt ont voulu se lancer dans l'investment banking. Elles vont se brûler les ailes. Les merchant banks qui avaient fait la fortune de la City au cours du 19e siècle, elles ont voulu racheter des sociétés du LSE, du London Stock Exchange, pour se mettre à concurrencer les investment banking banks. Elles vont toutes disparaître, sauf Rothschild et Lazard. Vous voyez, donc le paysage change. Et l'afflux de toutes ces banques étrangères fait que la City, dans le centre de Londres, le Square Mile, ça veut dire 1,6 km sur 1,6 km, c'est beaucoup trop petit. Donc, la City va commencer à émigrer. Elle va émigrer le long de la Tamise, dans les anciens docks qui vont être reconvertis. Et le début de ce phénomène se passe vers la fin des années 90. Voyez.
Et elle va pousser des quartiers d'affaires jusque dans des quartiers populaires.
Elle va complètement dans les quartiers populaires.
C'est l'East End.
Donc le long de la Tamise, c'est le quartier qu'on appelle Canary Wharf, qui a complètement été rénové, etc. Mais vous voyez, au début des années 90, il y avait quasiment pas de métro, etc. Donc c'était assez difficile d'aller travailler là. Maintenant, c'est devenu, il y a métro, il y a tout ce qu'il faut.
Oui, enfin, les questions de transport ne sont pas toutes résolues à Londres. On pousse aussi en hauteur.
Et donc, vont se construire des très grands gratte-ciels. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la City du Square Miles va aussi commencer à construire des très grands gratte-ciel qui ont tous des noms assez drôles, dont l'un que sans doute beaucoup d'auditeurs ont vu, qu'on appelle le gherkin, c'est-à-dire le cornichon, qui a une forme un peu de suppositoire et qui domine la City traditionnelle.
Alors, vous dites que les questions de transport se résolvent, peut-être les questions de logement moins, parce que la pression immobilière provoquée par cette frénésie de construction va repousser plus loin des gens modestes, et ne parlons pas des travailleurs pauvres qui sont plus d'un million à Londres. Cette question de logement, elle a été au centre de la campagne, on parle du référendum aujourd'hui, mais de la campagne de mai, des élections municipales à Londres, qui a vu le succès d'un travailliste, fils de chauffeur de bus pakistanais, élevé dans un HLM. Il s'appelle Sadiq Khan. Premier discours pendant la campagne. Second discours, le nouveau maire, après avoir pris ses fonctions il y a un mois.
I'll also stop this scandal of developers selling homes in London to investors in the Middle East and Asia as investments. We can't allow our homes to be used as gold for it.
Le dossier numéro un à Londres, c'est celui du logement. Nous devons faire en sorte de construire des logements plus abordables pour les Londoniens. Je vais passer les prochains jours à développer une alliance entre les associations de logement et les milieux financiers, de façon à ce que nous puissions avancer dans le règlement de cette crise.
C'est un maire travailliste et la première solution qu'il propose, c'est de s'associer aux milieux financiers pour combattre les effets des difficultés de logement provoquées par les milieux financiers.
Ben oui, oui. Londres est la ville la plus chère avec Tokyo. Donc, mais ça n'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a longtemps que Londres est devenue une ville extrêmement chère. Et la vie à Londres est très chère. Il n'y a pas que le logement. Il y a aussi la vie tout court.
Mais autrefois, les travaillistes ne tenaient pas le même langage sur les milieux financiers.
Non. On peut dire qu'historiquement, les travaillistes ont toujours été opposés à la City, à la finance. C'est assez caricatural, excusez-moi. Mais enfin, c'est comme ça. Et puis, l'époque de Blair, donc avec ce qu'on a appelé le nouveau travaillisme, là, les travaillistes au pouvoir donc ont découvert la City. Pourquoi ? Parce que la City, c'est quand même un énorme secteur pour le Royaume-Uni. C'est 13% du PIB, en gros, ce qui est considérable. Donc, ça rapporte beaucoup de revenus à l'État sous forme d'impôts, donc ce n'est pas négligeable. Et donc, l'époque Blair, l'époque travailliste avant l'époque Cameron, a eu des discours tout à fait enflammés pour vanter les succès de la City, jusqu'au moment de la crise financière.
Jusqu'au moment de la crise financière. On a parlé du temps de la déréglementation, il est temps de parler du temps des grands dérèglements. Crise financière de 2008, avec les dégâts qu'on sait pour l'économie réelle, pour la banque aussi, surexposée dans des pays fragilisés. Et c'est à partir de ce moment-là que on voit quand même dans l'opinion, dans les gazettes et bien au-delà, se modifier l'image de la City telle que l'avaient forgée les conservateurs et les travaillistes à la façon de Blair et de Gordon Brown. C'est devenu le scandale permanent, c'est l'île aux eaux sales, la capitale de l'argent sale, Londres.
Oui, alors la crise financière a eu des effets terribles sur Londres, beaucoup plus que par exemple sur Paris ou sur d'autres villes. Compte tenu du poids du secteur financier, ça a été une véritable déflagration. Du coup, il a fallu que le gouvernement se porte au secours des banques, ce qu'il a fait pour éviter un effondrement complet du système. On a même, le gouvernement britannique a même nationalisé des banques. Donc le coût pour la société britannique du sauvetage de la finance a été extrêmement important. Et très peu de temps après la déflagration provoquée par la crise des subprimes, on va apprendre un certain nombre de scandales qui vont avoir lieu au sein de la City. Et là, l'opinion publique, qui jusque-là n'était pas anti-banque comme elle l'est quand même assez en France...
Je sens que là, vous pensez en anglais. Continuez.
L'opinion publique va se retourner et des sondages qui ont eu lieu à l'époque où vont être révélés tous les scandales financiers, on voit que quasiment il n'y a pas plus de différence entre ce que pensent les Français de la finance et ce que pensent les Britanniques. On a à peu près 85% des Britanniques qui sont prêts à dire « je hais la finance ».
Combien de Français voteraient comme les Britanniques aujourd'hui ? C'est une vaste question. Alors justement, on en vient au débat sur le Brexit. Alors les conséquences, on le sait, sont pressenties par la City. C'est un trou d'air, c'est le désordre. La City sait ce qu'elle gagne avec l'Union européenne. Elle a besoin d'accéder au marché financier européen. Ça va lui être plus difficile. Elle va être obligée de relocaliser des activités sur l'Europe continentale.
C'est possible, c'est possible. D'abord, il va y avoir une chute de la livre sterling. Elle a déjà commencé à dévisser depuis quelques jours. Les marchés vont devenir très très instables. Et
on ne connaît pas encore les résultats, Marie-Claude Esposito.
On ne connaît pas encore les résultats, mais les marchés, de toute façon, ils n'aiment pas l'incertitude. Donc l'incertitude qui est créée à l'heure actuelle leur déplaît beaucoup. S'il y a Brexit, un certain nombre de banques, de grandes banques américaines, européennes, ont déjà parlé de rapatrier leurs activités. Alors certaines.
Alors où est-ce qu'on va mettre les impatriés? Parce que en France, on parle beaucoup des expatriés vers Londres. Où va-t-on mettre les impatriés? À Milan, à Paris, à Amsterdam, à Francfort. Chacun est en train de se mettre en avant là,
oui,
au cas où.
Francfort, bien sûr, on y pense, hein, puisque c'est le siège de la Banque Centrale Européenne, donc ça paraît une bonne localisation. Amsterdam paraît être aussi une bonne localisation. Zurich pourrait en être une aussi. Paris voudrait récupérer de l'activité. Le problème, Paris souffre d'une mauvaise image.
Ben oui, alors je vois déjà Emmanuel Macron qui ouvre les bras aux impatriés et qui leur dit « on va trouver toutes sortes de facilités fiscales pour vous aider ».
Écoutez, je ne sais pas, pour l'instant on n'en entend pas beaucoup parler, donc je ne sais pas s'il pourra ouvrir les bras aussi grands que vous l'imaginez.
Parce qu'à Milan, ils offrent déjà de l'espace, parce qu'il y a un quartier d'affaires qui a été racheté par le Qatar, dont on ne sait pas quoi faire, et puis il y a l'ancienne foire de Milan qui a élevé des tours qui sont vides. Alors où peut-on les mettre à Paris, les impatriés?
Le quartier où sont les banques à Paris, c'est plutôt la Défense.
Oui.
Bon. Il y a aussi, je crois, quelques immeubles qui sont vides. Ce qu'on vient de voir là très récemment, et je pense que ça n'est pas fortuit, c'est un rapprochement entre le London Stock Exchange, donc la bourse de Londres, et la Deutsche Börse, la bourse allemande. Et donc, on parle de fusion qui a été acceptée des deux côtés par les conseils d'administration, mais qui va passer maintenant sous les fourches codines de l'Union européenne. Mais si cette fusion a lieu, ça va créer un ensemble qui pourra rivaliser avec les deux grandes structures. Il y en a deux aux États-Unis et une à Hong Kong.
D'autant que la bourse d'Italie a déjà été rachetée par le Stock Exchange. Donc oui. La City, même si elle a l'impression de sauter dans l'inconnu, a quand même un parachute. Merci à vous, Marie-Claude Esposito. Cette émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la technique Antoine Gomez, et la préparation, c'était Franck Olivard. Dans un instant, c'est la tête au carré selon Mathieu Vidard. Donc on était à la latitude de Londres et vous nous emmenez sous les tropiques exactement.
Oui, plutôt vers l'équateur effectivement Jean. On va parler des tropiques et de la médecine tropicale en particulier. On va faire un peu d'histoire d'ailleurs nous aussi cet après-midi dans la tête au carré. On va parler aussi de botanique bien sûr pour découvrir la biodiversité tout à fait particulière de ces zones tropicales du globe. Voilà, avec nos invités dans un instant.
Et l'histoire, ce sera à la charge des spécialiste de la médecine pasteurienne qui
absolument
vont intervenir dans votre émission. Et puis, puisque nous avons un peu de temps, j'annonce le programme de demain, le témoin du vendredi dans la marche de l'histoire, c'est Jean-Yves Joanet qui se livre à une grande entreprise encyclopédique concernant toutes les guerres du monde entier. C'est un sujet pour Mathieu Vidard qui en général travaille à 360 degrés.